Bonjour, c'est Mathias Sénard. En cette fin d'année, je vous propose de découvrir les 5 livres les plus magiques de 2024. Poétiques, engagés, puissants. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, une conversation littéraire un peu, beaucoup même, iranienne. J'ai la chance de recevoir trois femmes pour parler d'Iran. Une journaliste romancière, Delphine Minoui, une écrivaine, cinéaste et peintre, Atiyeh Atarzadeh, et une traductrice qui a traduit du persan la précédente, Farideh Rava. Bonjour Delphine Minoui.
Bonjour Mathias Sénard.
Salam, Atiyeh Atarzadeh.
Salam, Retrosh Bertin.
Et bonjour, Farideh Rava.
Bonjour, Mathias Sénard.
Il se passe en effet quelque chose autour de la mort de Mahsa Amini. Son histoire est à la une de la quasi-totalité de la presse iranienne. Les journaux sont choqués et pointent du doigt les méthodes de la police des mœurs, car il faut dire que ce n'est pas la première fois que cette dernière est critiquée. On lui reproche d'utiliser des méthodes violentes à l'égard des femmes. Il se passe quelque chose dans tout le pays, manifestation devant l'hôpital de Téhéran vendredi, incident hier dans la région d'origine de Mahsa Amini, incident entre manifestants et forces de sécurité iraniennes qui ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Il se passe quelque chose en Iran et au-delà. De nombreux cinéastes, artistes, personnalités ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. À Paris, un rassemblement a eu lieu hier en hommage à la jeune femme, dont le nom est en passe de devenir un symbole. Ce qui n'échappe pas à l'opposition iranienne en exil, qui rappelle qu'il existe en Iran une sorte d'apartheid sexuel qui actuellement se renforce, car les femmes sont l'un des moteurs de la contestation qui monte dans le pays.
Nous venons d'entendre la première fois où la radio française a évoqué Mahsa Amini le 18 septembre 2022, en l'occurrence France Inter et le grand reporter de Radio France, Nathanaël Charbonnier. Un moment qui marque le début d'une révolte d'une ampleur inédite, Delphine Minoui.
Oui, ça a été un électrochoc pour tous et toutes, parce que pour toutes les Iraniennes qui vivent en Iran ou qui y ont vécu, comme moi-même, on a toutes été confrontées à la police des mœurs. Ça fait partie du quotidien. Sauf que là, une fille est morte à cause d'un voile mal porté ou de quelques mèches qui sortaient du foulard. Et ça a été un terrible électrochoc. Et c'est tout l'Iran qui s'est réveillé. Il y a déjà eu des poussées de fièvre par le passé en Iran, différentes manifestations. 1999, les manifestations estudiantines, 2009 contre la fraude électorale, 2017-2019 plus contre la question économique, l'augmentation du prix de l'essence. Et là, pour une fille tuée, l'Iran est sorti en masse dans la rue. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, toutes les minorités religieuses, ethniques, je pense aux Baloutches, aux Kurdes. Le Kurdistan, c'était la région d'origine de Mahsa Amini.
Atiyeh Atarzadeh, est-ce que vous vous souvenez du début de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté?
بله همونطور که گفتین با برل مرگ مهسا
Delphine a dit tout a commencé avec la mort de Mahsa et moi j'étais tout au long de cet événement à Téhéran et malheureusement c'était une des conditions des situations très dures que nous avons vu et tout le monde a vu sur les réseaux sociaux.
Atiyeh Atarzadeh, vous êtes écrivaine et cinéaste, autrice de documentaires, artiste peintre aussi. Et les éditions Bruno Doucet publient, traduit par Farideh Rava ici présente, le recueil de poèmes « Je respire sous la pierre ». Et Delphine Minoui, quant à vous, vous êtes journaliste et romancière. Vous avez longtemps vécu et travaillé en Iran. Vous avez obtenu le prix Albert Londres, le grand prix d'électrice de Elle. Et j'avais eu la chance de m'entretenir avec vous au moment de la parution de votre premier roman, L'Alphabet du Silence, qui avait pour cadre Istanbul. Vous nous revenez cet automne avec un second roman, intitulé Bad Gents, un roman iranien, cette fois-ci. Est-ce que le roman était une façon de retourner en Iran, Delphine Minoui?
Quelque part, oui, c'était une façon de, ne pouvant plus y aller aujourd'hui, de redonner, de continuer à donner la parole aux Iraniennes de l'intérieur, à des filles que je côtoie au quotidien à travers les réseaux sociaux, qui malheureusement se retrouvent parfois embastillés, se retrouvent muselés, étouffés. Et c'était une volonté de continuer à créer ce lien, d'embarquer mes lecteurs et mes lectrices dans la vie intime de ces femmes. Et particulièrement ces femmes très jeunes, ces filles, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ces adolescentes qui sont sorties manifester avec une fougue, une pulsion de vie très impressionnante. Cette nouvelle génération est très irrévérencieuse et en même temps avec cette prise de conscience qu'elle marchait à ce moment-là vers la mort. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer au roman, c'est-à-dire littéralement dépasser l'événement pour le vivre de façon beaucoup plus incarnée, avec un souffle, avec une fougue, avec un langage qui claque, à la fois argotique et poétique, qui incarne cette nouvelle génération iranienne.
Alors, vous choisissez dans Bad Jens, non pas Téhéran comme cadre du roman, mais la ville de Shiraz. Pourquoi ce déplacement, alors qu'on s'attendrait justement, au contraire, à ce que vous choisissiez la capitale de l'Iran?
Alors, c'est un choix très assumé. Je voulais sortir du cadre de Téhéran que tout le monde connaît, surtout à travers l'Internet, les réseaux sociaux. Téhéran où moi-même j'ai vécu. Téhéran, à propos de... Enfin, la ville de Téhéran, j'ai beaucoup écrit dessus. J'avais écrit mon récit personnel, je vous écris de Téhéran. Il me semblait important de me déplacer, de raconter l'Iran justement qui se réveille à travers les provinces, pour montrer aussi la spécificité de ce mouvement Zan Zendegi Azadi, Femme, Vie, Liberté, qui concerne tous les Iraniens et les Iraniennes. Et puis pour montrer, j'ai sciemment fait le choix de planter le décor de mon histoire dans une famille ultra conservatrice, pour montrer que même dans ces familles-là, c'est en train de craquer. Et c'est ça qui, pour moi, fait aussi la spécificité de la situation actuelle. Et puis Shiraz, évidemment, ville des poètes. On ne peut pas parler de l'Iran sans parler de poésie, parce que la résistance passe par les mots en Iran.
Alors, dans le livre apparaissent trois générations dans cette famille, la famille de Zahra, surnommée Bad Jens. La génération des grands-parents, alors cette génération, c'est celle des combattants, c'est-à-dire ceux de la guerre Iran-Irak des années 80, la première génération de la République islamique. Comment est-ce que dans le roman, les grands-parents de Zahra perçoivent justement ce qui est en train de se produire ?
Ce qui était important pour moi, c'était à travers ce monologue très intime, très personnel, en me glissant littéralement dans la peau de Bad Jens, de faire quand même une sorte de récit choral qui fasse référence aux générations d'avant, la mère, la grand-mère et le grand-père. Bad Jens, c'est littéralement la petite fille de la révolution islamique de 1979. Sa grand-mère est une bigote, son grand-père était un combattant, il avait rejoint les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Il avait combattu contre l'Irak pendant 8 ans, de 80 à 88. Donc cette génération des grands-parents, c'est ceux qui ont cru aux idéaux de la République islamique. La génération de la maman de Bad Jens, c'est encore autre chose, c'est l'entre-deux. J'appelle ça un petit peu la génération brûlée, sacrifiée, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont grandi sous les diktats de la République islamique, dont l'enfance a été sacrifiée pendant la guerre, mais qui a cru à la possibilité d'un changement de l'intérieur. C'est la génération des réformes de la fin des années 90. L'élection du président Mohamed Khatami, c'est la possibilité de trouver toujours des compromis, c'est la génération aussi qui s'est créée des
Mohamed
cadres
Khatami
de survie.
En 93, l'élection de Khatami, si je me trompe
en pas. En 1997, tout à fait.
Et ce serait quel c'est des gens qui ont quel âge aujourd'hui? Cette mère de Bad Jens, elle aurait quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle aurait entre 45 et 50 ans. Et en fait, c'est ma génération aussi. C'est la génération de mes amis que j'ai côtoyés quand j'habitais à Téhéran. Bad Jens pourrait être ma fille. Et Bad Jens, on fait un pas de plus en avant. Parce que Bad Jens, elle est à des années-lumière de sa grand-mère. Elle est très différente de sa maman parce que autant sa maman cherchait des arrangements au sein du système, autant Bad Jens appartient à ces jeunes qui veulent faire tout tomber aujourd'hui. Le foulard comme le régime. C'est une génération jusqu'au boutiste, irrévérencieuse, beaucoup plus fougueuse, d'où le prénom aussi. Parce que Bad Jens, mot à mot en persan, ça veut dire mauvais genre. Mais les filles entre elles, souvent pour se taquiner, pour se traiter d'espiègles, d'effrontées, de mauvaises graines, elles vont s'appeler entre elles Bad Jens. Un peu l'équivalent, je dirais presque, de notre badass à l'occidental. Et c'est là-dessus que j'ai voulu travailler, sur ces différences entre générations, mais quelque part, la mère qui aspirait à beaucoup de liberté, mais qui était beaucoup plus prudente, Elle a, en catimini, par petites touches homéopathiques, donné, offert les clés de la liberté à sa fille. Elle est, je pense, complice de son émancipation progressive parce qu'elle va lui offrir une tablette qui va lui permettre de se connecter aux réseaux sociaux. Elle fait des économies pour lui payer des cours de karaté. Et plus tard, elle va même lui acheter un petit kit pour faire des tatouages à domicile en catimini dans sa chambre à coucher en vendant tous ses bijoux en or.
Néanmoins, on a l'impression que les générations passent, mais c'est quand même finalement la génération des grands-parents qui a encore la main mise non seulement sur l'espace public, mais aussi sur la famille, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'école, tout ce qui est de l'ordre du pouvoir reste encore entre les mains de cette génération des grands-parents.
La génération des grands-parents, en effet, c'est la même génération que le guide suprême Ali Khamenei, qui est de plus en plus vieillissant. Enfin, c'est une espèce de gérotocratie théocratique aujourd'hui en Iran. Donc, ce sont les derniers qui s'accrochent à l'idéologie, aux valeurs de la République islamique. Ce sont, comme le dit Badjens, des adorateurs de la mort, le culte des martyrs, le patriarcat d'État. Et à cette génération-là, Badjens, ses copains et ses copines oppose la vie, la fougue, le feu. Mais ce qui est très intéressant, c'est comme si aussi ces femmes aujourd'hui étaient les héritières d'une lignée de plein d'autres femmes qui ont résisté pendant des années en catimini. Et c'est comme si ces femmes aujourd'hui, quelque part, tentaient de rétablir peut-être une certaine forme d'anomalie imposée à partir de la République islamique en 1979, quand littéralement la femme ne devient que la moitié d'un homme, quand le voile est obligatoire. Mais si on remonte plus loin, parce que c'est toujours une espèce de compétition entre les différentes traditions, la tradition religieuse imposée depuis 45 ans, mais si vous allez beaucoup plus loin, en fait, la tradition ancestrale en Iran, c'est la joie, c'est la lumière, c'est le feu, c'est le zoroastrisme. Et l'anomalie pour certaines femmes, d'après elles, est arrivée à partir du 7e siècle, quand il y a eu la conquête arabe et l'imposition de l'islam, avec un carcan et un vernis beaucoup plus strict et rigide qui s'opposait au culte du feu, à la vie, à tout ce qui était beaucoup plus joyeux et lumineux.
Est-ce que c'est pas un peu un cliché reconstruit depuis aujourd'hui aussi cette vision du passé? Non, on a toujours tendance un peu à renvoyer dans les ténèbres ce qui vous opprime et donc forcément à n'en voir que les aspects peut-être les plus sombres.
Moi, je pense que la force de cette nouvelle génération, c'est que elle aspire à picorer un petit peu partout tout ce qui va lui permettre de continuer dans sa lancée. Aujourd'hui, la répression est féroce, les manifestations étaient tassées, il y a eu des condamnations à mort pour avoir soutenu le mouvement. Il y a des filles qui ont été sciemment visées au niveau des parties génitales, aux yeux. Elles ont été éborgnées dans les manifestations. Au moment où l'on parle, il y a des milliers de personnes qui sont encore derrière les barreaux, y compris de grandes activistes comme Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix. Mais cette génération, malgré tout, continue à opposer cette pulsion de vie comme une arme et aujourd'hui, à Téhéran, Atier pourra le confirmer tout à l'heure, dans des quartiers entiers, vous avez plus de la moitié des femmes qui continuent à sortir tête nue, qui s'asseyent aux terrasses des cafés sans voile, qui prennent le métro sans hijab. Donc ça, déjà, c'est une forme de victoire de leur côté. C'est cette volonté de ne pas renoncer. Comme si, finalement, aujourd'hui, la vie, la joie étaient des armes de subversion, comme si aussi les cheveux devenaient des armures de combat. Gilles Deleuze disait très bien que les pouvoirs ont besoin de corps tristes, parce que c'est beaucoup plus facile de dominer un corps triste, de dominer la tristesse. Et à cette tristesse imposée et institutionnalisée par le pouvoir, avec un vernis très du registre de la martyrologie, la jeunesse se réinvente un nouveau mode de vie.
Ce qui est très frappant Delphine Minoui dans le roman Badjens, c'est cette présence de la guerre et du souvenir de la guerre, qui est encore quelque chose, presque un instrument de pouvoir. Vous racontez par exemple ce voyage scolaire obligatoire sur le front. Donc la guerre s'est arrêtée en 88 et c'est encore pour l'Iran d'aujourd'hui vraiment un symbole extrêmement important. Et c'est très surprenant justement la réaction de Badjens face à ce front qui finalement lui dit plus rien, lui est assez loin d'elle, de sa réalité quotidienne.
Pour elle, cette guerre n'est inscrite que dans les souvenirs lointains qui sont relayés en permanence sous forme de propagande à l'école, parfois par les grands-parents. par les icônes aussi. Il faut savoir que quand vous marchez dans la rue, dans les grandes villes, vous avez des portraits gigantesques sur les façades des bâtiments qui rendent hommage aux martyrs de la guerre Iran-Irak. Et évidemment, tous les ans, il y a des voyages scolaires. Les voyages scolaires, ce n'est pas aller à Rome ou en Grèce, c'est aller sur les anciens champs de bataille de la guerre Iran-Irak. Et c'est là où on voit qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la guerre par le pouvoir qui est utilisée comme forme de contrôle, comme forme de comme une espèce de vernis pour tenir en tout cas les masses potentielles qui vont résister, qui vont se rebeller. Et ce qu'on entend souvent, c'est une façon de dire « Regardez, regardez les générations d'avant qui se sont sacrifiées pour vous. Vous n'allez pas céder à l'invasion culturelle occidentale, il y a eu des morts pour cette patrie, pour ce pays. Donc respectez les morts, respectez les martyrs. »
Ça, c'est pour l'aspect extérieur, cette obsession dans l'espace public, mais il y a aussi, c'est ce que vous décrivez dans le roman, une oppression interne à la famille, et notamment le poids des violences sexuelles dans des environnements très proches, l'oppression au quotidien. Comme si, dans cette opposition si iranienne entre le dehors et l'intérieur, finalement, même à l'intérieur de ces espaces protégés, les femmes étaient quand même aussi victimes.
Oui, dans les milieux conservateurs, eh bien, d'un côté, en effet, dans l'espace public, il y a le patriarcat d'État, mais au quotidien, il y a le patriarcat familial, la pression des pères, la pression des frères, des oncles, et ça commence dès la naissance. Bajens le dit, je suis morte le jour où je suis née. Pourquoi ? Parce que son père désirait un garçon. Et donc, ça a été pour lui un choc d'avoir une fille. D'ailleurs, il a même songé à la possibilité d'un avortement. Je joue là-dessus aussi parce que l'avortement est interdit par l'islam. Mais parfois, la religion a bandeau. Tout s'achète, tout se négocie en Iran. C'est la culture des slaloms en permanence entre les obstacles, y compris pour ceux qui se prétendent comme étant les plus grands religieux et défenseurs de l'islam. Et Bajens, elle va n'avoir d'autre choix que de se construire dans cet oubli-là. Parce que littéralement, le père l'invisibilise. Il l'efface. Il y a même une fois un incendie dans l'appartement. Tout le monde s'évade sur le trottoir. Bajens se réveille en panique, entourée par les flammes. Elle arrive à se glisser comme ça dans la cage d'escalier. Elle arrive sur le trottoir, le père lève la tête et lui dit « Oh mince, on t'avait oublié ». Et face à cet oubli permanent, elle va tenter, dans un premier temps, elle va se dédoubler, puis elle va rentrer dans la confrontation, jusqu'à un moment donné passer à l'acte. Mais dans la confrontation, ça va être la confrontation au quotidien dans l'espace de la maison contre le papa. Le papa qui veut qu'elle se tienne d'une certaine façon, qu'elle s'habille d'une certaine façon. Et elle provoque en permanence. C'est aussi l'adolescence. Donc elle va se raser la tête pour aller assister à des matchs de foot qui sont interdits aux hommes. Elle va porter des jeans frangés. Le père va la réprimander. C'est pas grave. À un moment donné, elle retire le t-shirt et elle lui pose ses deux seins sous le nez. Donc j'ai voulu, encore une fois, travailler sur l'intime, sur la chair, le corps est très symbolique parce que c'est ce qui est effacé par le père et c'est ce qui va se révéler progressivement au cours du roman à travers l'histoire de Bajens.
Delphine Minoui, justement, comment avez-vous travaillé ? Est-ce qu'il y a des modèles à Bajens ou est-ce qu'elle sort, j'imagine, pas exclusivement de votre imagination ?
Ce qui était important pour moi, en fait, c'était de me nourrir de ces voix du réel, de ces voix de l'intérieur qui ont existé, je pense, à Mahsa Amini, je pense à Nikosh Akarami, je pense à Sarina Esmaïlzadeh et plein d'autres jeunes filles qui sont tombées sous les balles des miliciens, mais qui ont laissé quelques traces de vie sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux. Donc j'ai exhumé ces réseaux sociaux, j'ai trouvé des journaux intimes sur Twitter, j'ai trouvé des références, des chaînes Telegram qu'elles tenaient, des blogs vidéo qu'elles avaient. Donc je me suis vraiment nourrie de leur propre langage. Et puis dans un second temps, j'ai tissé un lien avec une dizaine d'adolescentes iraniennes à travers le pays. Et donc c'est pétri de tous leurs témoignages. Et ce qui était fort, c'est que là, je devenais vraiment romancière et pas journaliste. Donc je les prévenais tout de suite en leur disant, je ne vais pas raconter votre histoire dans un journal, donc ne vous sentez pas en danger. Vous parlez selon le principe de l'anonymat. Et donc, grâce à l'Internet, derrière l'écran de mon ordinateur, je vivais leur vie par procuration. On a conversé comme ça pendant un an et demi. J'étais dans leur chambre à coucher, j'ai assisté à leurs soirées clandestines, parfois avec leur téléphone. Elles m'emmenaient en catimini dans le parc quand elles s'amusaient à attirer les garçons et à jouer un petit peu au jeu du chat et la souris, un peu la drague à l'iranienne. Et donc j'ai voulu vraiment raconter par procuration toutes ces vies-là, ces destins brisés, ces destins qui existent encore. Et c'est comme si, avec un fil imaginaire, je recousais toutes ces bribes de vie pour créer mon propre personnage, qui est aujourd'hui Badgens, qui aurait pu exister comme certaines autres filles ont existé.
Et qu'est-ce qui vous a fait penser que justement le roman était l'endroit où faire cela, c'est-à-dire alors que vous aviez voilà, tous les moyens de faire plusieurs reportages assez magnifiques, même longs, sous forme de livres. Qu'est-ce que permet la fiction que finalement le journalisme ne vous permettait pas?
Je pense que dans un article ou dans un essai ou dans un ouvrage de non-fiction, il y a toujours, enfin en tout cas ça a été toujours mon propos dans mes écrits, c'était cette idée de briser le silence, de combattre une certaine forme d'injustice. Le roman me permet de rétablir une certaine forme de justesse avec ma patte, avec mon style, et de raconter au-delà de l'événement, en fait de le regarder droit dans les yeux, de m'immerger pleinement dans la chair, dans le cœur d'une personne en particulier qui va incarner toutes les autres. J'avais vraiment besoin pour ce texte de toucher à l'épiderme, aux sensations, au micro pour dépasser l'aspect macro. Et je ne pouvais le faire qu'à travers un récit très intime, un véritable monologue. J'avais besoin à mon tour de me mettre littéralement, de fermer les yeux et de me poser la question moi-même, si j'étais ado aujourd'hui en Iran, comment j'aurais réagi? À quel moment ma peur se serait transformée en force? À quel moment le courage des autres aurait été contagieux? Moi qui suis moi-même naturellement très peureuse et très timide, comment à un moment donné je serais aussi devenue cette Badgens-là, cette effrontée, cette audacieuse?
Delphine Minouille, est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaisir du jeu, tout simplement, c'est-à-dire de pouvoir investir à la première personne, à un personnage qui n'est pas soi?
Il y a, oui, peut-être une forme de plaisir et en tout cas de vraiment de souci d'incarnation, c'est-à-dire que, et puis on est pris au jeu, bien sûr, parce que j'avais l'impression de me glisser dans la peau de Badgens et du coup, par procuration, la peau de toutes ces filles. Mais finalement, il y a un personnage qui est né en moi. Il y a un personnage qui s'est révolté en moi. C'est-à-dire que il y avait cette petite voix interne, peut-être qui ne s'était jamais révélée, qui commençait à crier aussi. Au début, c'était un cri refoulé, un cri étouffé, un cri de colère, de rage, qui devenait un cri de joie, parce que j'ai un tempérament aussi toujours optimiste à essayer de trouver la lumière au fin fond des ténèbres. C'est ce que je vis au quotidien depuis 25 ans au Moyen-Orient. Et c'est vrai que j'y ai mis indirectement entre les lignes, sans doute, de moi en tant que moitié iranienne, en tant que femme aussi.
Delphine Minouille, qu'est-ce qui pour vous fait que c'est cette génération-là qui se révolte? Est-ce que c'est qu'il y a un moment justement où parce que peut-être la République islamique n'a pas su lâcher du lest ou n'a pas su justement comment évoluer, que tout craque, comme une espèce de pression qui monterait dans une cocotte minute? Ou au contraire, parce qu'il y a les moyens de cette révolte, à travers justement les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, une façon de faire société qui se transforme.
Je pense que les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il était évident que les Iraniens allaient sortir à nouveau dans la rue, parce que par le passé, il y a eu une accumulation de demandes à chaque révolte, et il n'y a eu qu'une réponse à ces demandes. Et aujourd'hui, finalement, c'est vrai que c'est un mouvement féminin, mais qui cristallise toutes les autres revendications politiques, économiques, écologiques aussi. Nous faisons face à un désastre écologique aujourd'hui en Iran. Et donc, ça explose. Ça explose. Et pourquoi ça explose particulièrement du côté des jeunes? Parce que les jeunes n'ont plus peur de rien. Les jeunes, cette nouvelle génération, cette génération Z, c'est la génération qui a été biberonnée à la propagande islamo-patriotique. On le disait tout à l'heure, c'est une génération où on lui impose des diktats, des carcans, avec des références qui ne lui parlent pas. La République islamique, ça ne leur dit rien. Le régime des Mollahs, ça leur semble tellement rétrograde et moyenâgeux. La guerre Iran-Irak, ils n'en ont aucune trace visuelle pour eux. Et de l'autre côté, c'est une génération qui surfe tous les jours sur TikTok, Snapchat, X, Instagram. C'est une génération qui est parfaitement consciente de la façon dont on vit, aussi bien à Los Angeles qu'au fin fond de l'Éthiopie, qu'à Berlin ou à Paris. Donc, c'est une génération qui n'est pas dupe et qui, du coup, est d'autant plus rebelle qu'elle en devient irrévérencieuse parce que, aussi, je pense, les mères ont joué un rôle. Les mères ont littéralement donné les clés de la rébellion et de l'émancipation à leurs filles. Ça s'est passé en catimini. Jusque-là, tout se passait avec des mécanismes de survie derrière les voiles, derrière les murs. La nouveauté, d'après moi, aujourd'hui, c'est que les murs s'effritent et ça déborde dans l'espace public.
Le rôle des réseaux sociaux, cet activisme peut-être 2.0, on a l'impression que ça aussi, la République islamique a pas su comment gérer cela. Pendant longtemps, ils ont essayé de contrôler Internet, jusqu'au moment où ça n'a plus fonctionné, où en fait, en réalité, maintenant, tout est possible avec tous les VPN, enfin tous les trucs qu'on utilise pour avoir une certaine liberté sur les réseaux sociaux. Comme si c'était le premier espace de liberté qui s'était ouvert et avait permis la conquête d'autres espaces à son
Oui, parce que autant on voit que la société est en capacité permanente de se renouveler, de réinventer des mécanismes de survie, de résistance, autant le pouvoir sans doute englué dans une idéologie qu'il ne cesse de défendre, idéologie rétrograde, n'a pas vu venir les choses. Et donc la censure, elle existe. Elle existe au quotidien, des journaux sont régulièrement fermés, doivent mettre la clé sous la porte, les réseaux sociaux sont régulièrement bloqués, mais les jeunes, encore une fois, sont beaucoup plus frondeurs, beaucoup plus inventifs et expiègles, ils sont capables, ils ont tous chez eux entre 15 et 20 VPN qui permettent de casser les filtres. Au pic des manifestations au début du mouvement Femmes, Vie, Liberté il y a 2 ans, il y avait toujours aussi un cousin qui travaillait au ministère de l'Intérieur ou dans un autre ministère qui donnait à ses copains et à ses cousins les codes d'accès au Wi-Fi gouvernemental qui permettaient justement aux jeunes de rester connectés au sein du pays et d'envoyer toutes ces images, toutes ces vidéos au-delà des frontières de l'Iran.
Ce qu'on découvre en lisant Bad Gens, votre roman Delphine Minoui, c'est aussi cette génération de l'intérieur dans ses habitudes quotidiennes. Et on danse beaucoup, justement. Il y a l'expression du corps. Alors tout ça est à l'intérieur des maisons. Mais la joie dont vous parliez tout à l'heure, et la danse, le plaisir d'une forme de rapport au corps en toute liberté est très présent dans le roman.
Oui, parce que le régime a littéralement territorialisé les corps, il a colonisé les corps des femmes. Et du coup, à ces corps-prisons, les filles opposent le mouvement, la joie, la danse. Parce que qu'est-ce que ça signifie ? C'est la réappropriation de leur être, de leurs cheveux, de leur sensualité, de leur forme, de finalement leur condition de femme à part entière. Donc je joue beaucoup là-dessus, sur l'aspect très charnel qui va aller jusqu'aux mots. La force des mots, parce que c'est ces jeunes femmes, Bad Gens et ses copines, quelque part, ce sont les héritières, version ultra-moderne, version 21e siècle, des grandes poétesses du passé, Tohere, Simin Bebani, Folour Farorzod, à travers une autre forme de mots, les hashtags sur les réseaux sociaux, les graffitis muraux à la nuit tombée, mais aussi les tatouages qu'on dessine, qu'on calligraphie, sur le corps, sur l'épiderme, sur la peau, c'est une nouvelle forme de rébellion qui s'exprime. Et encore une fois, quelque part, c'est comme si le corps se réappropriait la parole étouffée.
Justement, le roman Bad Gens, l'héroïne elle-même se passionne pour le tatouage à tel point qu'elle reçoit en cadeau ce kit pour effectuer des tatouages, qui est le dessin sur le corps. C'est aussi extraordinairement fort de marquer de son corps comme ça à vie.
Oui, parce que j'ai utilisé le tatouage comme un symbole fort de ce que peuvent vivre les filles aujourd'hui dans leur âme, dans leur corps, dans leur chair. Et à un moment donné, quand elle est en train de tatouer sa copine Leïla, parce que ça fait mal, et du coup elle dit « ça fait mal, mais justement ça fait du bien ». Parce que c'est aussi cette douleur qui procure un bien extrême, parce qu'au final, il va y avoir une révolte indélébile, une trace qui va rester sur la peau, une trace qui est une forme de fronde, parce que ça, quand elles vont sortir dans la rue, c'est sous une manche, ça ne se voit pas, mais la rébellion, elle est quand même là, face aux gardiens de la morale islamique dans la rue.
Un des aspects aussi très surprenants, pour qui ne connaît pas l'Iran de Bad Jens, c'est le rapport à la sexualité et à l'amour de ces jeunes filles, qui sont à la fois extrêmement naïves vis-à-vis de leur propre corps sur l'aspect plus sexuel, ou des rapports entre les sexes, pour le dire de façon plus générale. Mais en même temps, et comme partout dans le monde, aussi extrêmement passionnés par ces sujets-là. Et on sent aussi une des contradictions iraniennes, qui est à la fois un tabou très fort sur ces questions sexuelles, mais en même temps aussi un profond désir de ces générations de s'émanciper de ces tabous.
Oui, c'est vrai que cette redécouverte du corps passe par des questions liées au genre. Et c'est aussi le propre de cette nouvelle génération, puisqu'elle est très connectée. Bad Jens, elle se fait par exemple une meilleure amie sur la toile, sur les réseaux sociaux, une fille qui habite en Corée du Sud. Et du coup, par l'entremise de l'Internet, elle découvre une jeunesse qui aspire à tout, qui a brisé depuis bien longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en Iran, tous les tabous. Et du coup, sa copine, à un moment donné, lui dit, tu sais, moi, j'aime les filles, ça ne te dérange pas? Et là, Bad Jens répond, non, pas du tout. Parce que je veux montrer que aussi en Iran, ces interrogations-là, elles font partie de la nouvelle génération. Elle se retrouve dans la rue, à un moment donné, à faire des graffitis avec sa copine Leila. Et parce qu'il se passe quelque chose de fort, parce que c'est intense, parce que à un moment donné, elles vivent, c'est le feu en elles. Elles vivent leur vie intégralement. Et puis il y a aussi cet affront par rapport aux interdits. Elles savent qu'elles peuvent être arrêtées à tout moment, donc elles veulent vivre l'instant présent et elles s'embrassent. Bad Jens ne sait pas si elle aime les filles ou les garçons, mais c'est aussi le propre de l'adolescence où l'on se cherche. J'interroge beaucoup l'adolescence dans ce roman. Il y a aussi une dimension très universelle, mais pour montrer que aujourd'hui, c'est ça aussi la nouvelle génération, c'est qu'il y a des tabous qui sont brisés à cet endroit-là. On a imposé des carcans, les hommes, les femmes, d'un autre côté. Et aujourd'hui, ces jeunes filles, ces jeunes adolescentes brisent tous ces carcans jusqu'à endosser la possibilité d'aimer des gens du même sexe.
Delphine Minoui, Bad Jens, c'est aussi montrer l'injustice sur son... ce qu'elle a de plus terrible, non seulement sur les corps, à l'intérieur même de la famille, sous le coup du patriarcat, mais aussi dans la rue. Et il y a notamment une scène où Bad Jens est arrêté absolument par erreur par la police des mœurs, qui montre bien tout l'arbitraire de la rue en Iran.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sort dans la rue, elle sait qu'elle est consciente qu'il peut lui arriver quelque chose, mais en même temps, elle garde cette naïveté de la jeunesse. Et il a suffi d'un coup de vent pour que son foulard tombe et qu'elle se fasse arrêter par la police des mœurs. Et évidemment, à travers cette histoire-là, il y a un clin d'œil très évocateur à Mahsa Amini, qui elle-même n'était pas une rebelle. C'était une fille qui était venue en vacances pour quelques jours à Téhéran, qui arrivait de son petit village kurde avec son père et son frère. Et elle marchait dans la rue ce jour-là avec son frère. Le foulard aussi a glissé. Et elle n'aspirait pas à ne pas le mettre. Et rien que pour ça, pour cet incident, eh bien, on est passé à l'accident. C'était aussi pour montrer, c'est ça, ce caractère arbitraire, et montrer que malheureusement, quand bien même il y a une société qui revendique une plus grande liberté, si on est au mauvais endroit au mauvais moment, si la police des mœurs rôde quand vous avez fait le mauvais geste, eh bien vous risquez gros.
Et on ne peut pas parler de la fin du récit, on va tout dévoiler. Et néanmoins, il y a quand même une forme un grand espoir dans ce texte, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, et Delphine Minoui, cette possibilité pour cette génération de s'émanciper, peut-être d'une façon définitive, une transformation réelle de la société. Est-ce que vous y croyez, vous ?
Moi, j'y crois pleinement. J'ai beaucoup d'espoir, parce que si je me place du côté de la société, le pas est déjà fait. C'est-à-dire que si les Iraniennes et les Iraniens ne sont pas parvenus à changer de régime, ils ont déjà changé de trajectoire. On assiste à une véritable révolution dans les mentalités, dans les têtes. Donc je pense qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint. J'ai été très inspirée par les slogans que j'ai entendus quand je faisais tout ce travail de documentation pour mon livre. Il y en avait un qui disait, je trouvais ça très beau, qui disait que notre sang coule, mais que nos voiles brûlent. Et puis je repense toujours à cette phrase rédigée par les parents de Mahsa Amini sur son tombeau, qui est la suivante. Mahsa Amini, tu n'es pas morte, ton nom est devenu un mot de passe. Donc c'est comme si il fallait qu'il y en ait qui se sacrifient pour d'autres, et comme si c'était comme un rituel de transmission quelque part. Et pour moi, ça fait beaucoup écho au conte, à la mythologie iranienne, où il y a toujours cette espèce de rite de passation. Il y en a qui tombent et il y en a qui se relèvent. Bad Jens et ses copines font partie de celles qui se relèvent.
Delphine Minoui, le roman Bad Jens, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, se passe presque entièrement à Shiraz, à part ce petit passage que nous venons d'évoquer à Téhéran. Shiraz, vous le disiez tout à l'heure, c'est la ville des poètes, et un des lieux aussi extrêmement importants pour Bad Jens, c'est le tombeau de Hafez et les amoureux qu'on y aperçoit. Et cette présence de la poésie ancienne à travers ce tombeau, ce lieu, cette ville de Shiraz, c'est aussi quelque chose de très important dans l'Iran d'aujourd'hui.
Tellement important, c'est inscrit dans l'ADN des Iraniens et des Iraniennes. Je cite même en exergue du livre une grande poétesse Tohere, issue de la minorité religieuse Bahaï réprimée, morte il y a 150 ans, et qui avait eu déjà à l'époque d'ailleurs l'audace de retirer son voile dans une assemblée d'hommes, et quelques temps plus tard elle fut assassinée. Je cite aussi une grande poétesse, Simin Bebaoni, poétesse contemporaine morte il y a 10 ans. Il y a cette phrase magnifique où elle dit pour ne pas mourir, il faut assassiner le silence. Et c'est très fort et c'est très symbolique, et ça en dit long sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir de la poésie, sur la façon dont la poésie permet en permanence justement de renouveler une certaine forme de discours, de survie, de résistance, un discours de joie et un discours aussi très féminin.
Atiyeh Attarzadeh, je me tourne vers vous maintenant. On a parlé de poésie, alors vous êtes écrivaine, poète, cinéaste et peintre. Vous avez réalisé des documentaires sur la société iranienne. Et récemment, vient de paraître aux éditions Bruno Doucet, traduit par Farideh Rava, qui va interpréter vos propos, « Je respire sous la pierre », composé de 2 recueils, publiés en persan en 2014 et 2018, dans une très belle édition bilingue. Qu'est-ce que représente au milieu de toutes ces activités la poésie pour vous? Est-ce que c'est justement une façon aussi de communiquer avec ce patrimoine persan dont nous venons de parler?
La poésie, pour moi, c'est la possibilité de toucher l'impossible. C'est la possibilité de faire toucher, la possibilité de toucher l'invraisemblable, l'impossible dans ce monde. L'utilisation de la langue pour retrouver l'histoire et retrouver notre place dans le monde actuel.
Et qu'est-ce que représente pour vous ce patrimoine poétique iranien dont on vient d'être question?
Moi, en tant qu'artiste en Iran, ce que je fais actuellement, c'est basé sur ce que mes parents ont fait 80 ans, 100 ans plus tôt. Nous avons un très longue histoire et héritage dans l'utilisation de la langue pour exprimer nos douleurs. Tout au long de l'histoire, nous avons compris, nous avons appris comment complexer ou complexifier ou rendre plus complexe la langue pour exprimer ce qui se passe dans notre intérieur sans penser aux toutes les limites que le régime ou la société nous pose autour de nous. Et j'ai connu ma vie à travers tous ces miroirs du passé.
Et pour vous, par exemple, Simin Bebaoni, tous ces poètes de la génération antérieure à la vôtre, ont été une forme de modèle qui vous ont poussé à l'écriture?
Ce sont des modèles culturels pour nous, mais ils appartiennent aux générations anciennes. Mais comme Delphine Minoui a dit, les poètes comme Delphine Minoui, comme Bebaoni, ou Furugh Farrokhzad, ce sont des femmes poètes que nous avons beaucoup appris. Comment dans cette société qui était sous l'emprise de douleurs depuis longtemps en Iran.
خودمون باشیم و حرفمونو بزنیم.
Rester nous-mêmes et parler et dire ce que nous voulons dire.
Atiya Tarzadeh, le recueil « Je respire sous la pierre » est aussi un rapport au passé, au mythe, à la mythologie, tout ça est extrêmement présent et pas forcément exclusivement sur le territoire iranien.
Comme j'ai dit, ma place, je la trouve par rapport à l'histoire et la mythologie. Ce que vous voyez maintenant de l'Iran, c'est le résultat des événements historiques depuis des siècles et chaque événement à chaque siècle, si on regarde de près, on voit que c'était les mêmes problèmes, les mêmes difficultés actuelles. Comme si on est toujours dans les rouages et ça continue, ça se répète. C'est pour ça que j'ai tant de références historiques dans mon livre.
Et aussi réellement des extraits de mythes, de mythologie assyrienne, de Suse. Il y a la présence de ce sanglier, par exemple, avec sa dent qui rappelle le mythe d'Adonis. Et tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment présentes pour vous à partir du quotidien.
La mythologie, notre mythologie et aussi la mythologie de Moyen-Orient, c'est très vaste et ça nous concerne aussi autant que le reste du monde, surtout le Moyen-Orient. Et moi, à partir de l'histoire et la mythologie de cette région, pour construire mon monde imaginaire. Notre destin est très enchevêtré avec les autres pays de cette région.
On va entendre un poème d'abord dans votre voix et ensuite dans la traduction de Farideh Ravan.
شاعر شغل تمام وقتم کشتار است و گاهی شعر میگویم گاهی زخم را به گلوی گیلگمش آسمان را به امکان نمردن گله ای از نهنگ های عاشق در رمل های بلند برهوت تو را به دیوانه‌ای که غزل‌های سلیمان برای باد می‌خواند خودم را به یونسی که در شکم نهنگ زیتون می‌کارد ربط می‌دهم و شعری در وصف خون و جنون و گندمزار می‌گویم شغل تمام وقتم اما کشدار است
پوئت مون تراوای ا تان پلان ا د ماساکره ایل ماریو پارفوا de composer de la poésie, parfois de relier la blessure à la gorge de Gilgamesh et le ciel au troupeau de baleines amoureuses des hautes dunes arides. Je te unis au fou qui adresse au vent les chants de Salomon et je m'associe à Jonas plantant un olivier dans le ventre de la baleine. Je compose un poème sur le sang, la folie et les blés. Mais mon travail à temps plein et de massacrer.
Merci beaucoup. On entend là justement ce rapport entre le sang, le massacre, et puis le massacre mythologique, le autrefois Gilgamesh, la poésie.
Dans notre histoire et dans la mythologie, l'ensemble des mythologies de Moyen-Orient, nous trouvons aussi toujours des héros qui se sacrifient, qui meurent pour retrouver, pour atteindre, pour l'éternité, la vérité, la et aussi l'identité. Je pense que c'est exactement la même chose qu'un poète fait, un artiste en Iran ou bien ailleurs. C'est comme un voyage épique. Dans sa vie personnelle, il y a beaucoup de problèmes et aussi elle fait beaucoup d'efforts pour construire son monde imaginaire afin d'atteindre une vérité, une identité. Et je pense ce que je suis, j'essaye de faire.
Atiya Tarzadeh, cette image de Jonas et de l'Olivier montre à quel point finalement les mythes d'autrefois ensemencent la réalité d'aujourd'hui.
Ça existe toujours dans la vie individuelle et sociale. Comme Jonas, nous entrons dans les profondeurs et nous sommes avalés par une baleine, mais dans les ténèbres, nous restons vivants et nous nous arrivons à renaître.
Dans
la plupart des poèmes actuels de cette partie de Moyen-Orient, vous retrouvez toujours cette renaissance, comme Adonis, poète syrien, que j'aime beaucoup ces poèmes. C'est le point central de notre vie. Ça peut être partout dans le monde, mais d'après mon expérience, c'est surtout en Iran.
Atiya Tarzadeh, et dans Je respire sous la pierre, ce qui est très fort, c'est cette transformation de la violence, du sang qui coule dans nos veines, en autre chose. Comme dans le mythe d'Adonis, justement. La grande violence de la guerre, par exemple, est présente dans le livre.
Je suis né pendant la guerre et j'ai grandi pendant la guerre. J'ai passé mon enfance dans l'hôpital car mes parents étaient des médecins. Donc, pour moi, à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette question de douleur et surtout le traitement de douleur. Donc, j'ai appris comment voir la beauté à l'intérieur et parmi toutes ces douleurs. Et quand j'avais 15 ans, j'ai vu un documentaire de Flour Farrokhzad. C'était un documentaire qui était fait dans les années 60 comme d'un endroit où on avait... ce que Flour Farrokhzad arrive à faire, c'est de retirer la beauté et la vie à travers toutes ces ténèbres. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça peut être aussi un outil pour moi, pour m'exprimer. C'était la maison est noire par Flour Farrokhzad, fait en 1962, je pense.
Alors Farideh Ravoch, je m'adresse à vous. Vous êtes la traductrice d'Atiya Tarzadeh, de Je respire sous la pierre. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ou en tout cas si les traducteurs sont inspirés, qu'est-ce qui vous a ému dans cette traduction, dans le fait de faire passer ces textes en français?
En fait, j'ai vu ce livre il y a un an et demi, et c'était le titre en persan qui m'interpellait. C'était le titre était la blessure. Vous héritez d'une blessure de la terre. On est très sensible à l'écologie. Je pensais que c'était un livre sur l'écologie, mais après, quand j'ai feuilleté, il y avait un autre. J'ai trouvé cette phrase dans un poème qui s'appelle Prophétie. Et là, dans ce poème, elle disait « Je vous vois renoncer à courir, vos yeux rivés sur vos mains et les mots qui partent en fumée. » Donc, j'ai pensé c'était un constat sur ce qui se passe peut-être autour d'elle. Et après, j'ai trouvé une autre phrase qui disait « Voir, ne pas voir, voilà, telle est la question. » Donc encore, j'ai pensé que c'était un instinct de survie, encore à cause de ces événements. Et après, j'ai trouvé une autre phrase, c'était à un moment donné, dans un poème, elle dit « Nous n'avons pas cru en l'histoire ». Et ça, pour moi, c'était une clé pour voir un peu d'une autre manière, d'un autre angle. Et à la fin, c'était... essayer d'oublier des mots. Donc, j'avais quatre points, comme quatre coins d'un cadre. Donc, j'avais posé le cadre. Et puis, à l'intérieur, j'ai trouvé qu'elle parlait beaucoup de l'histoire. C'était l'histoire très longue de la création. Mais aussi, par exemple, elle parlait en même temps de Abu Nawas, qui était un poète de calife Harun al-Rashid, le cinquième calife, et en même temps un poème qui est intitulé une lettre ou un poème pour un poète de Abu Gharib. Donc, c'est-à-dire que ce que Abu Nawas a vécu, on retrouve, mais peut-être un peu plus grande, plus féroce. Et sur Abu Ghraib, on a vu beaucoup de documentaires.
Et la prison américaine d'Abu Ghraib.
Voilà. On a vu beaucoup de documentaires, on a vu beaucoup de photos. Mais d'après elle, peut-être il faut avoir un poète pour dire avec quelques mots la douleur des personnes qui ont été là-bas. Donc, de toute façon, Abu Ghraib, c'est un symbole. Ça peut exister ailleurs Et ça existait peut-être dans les années 40 aussi. Donc ça, c'est un symbole de ce que l'homme peut faire à l'homme. Donc c'est négatif. Et même Abu Nawas, c'est aussi une image. Ce n'est pas seulement lui en tant que poète, mais aussi un symbole des autres poètes, d'autres artistes.
Atiya Tarzadeh, est-ce que vous voulez bien nous lire justement ce poème pour un poète d'Abu Ghraib, et ensuite j'en lirai la traduction.
برای شاعری در ابو غریب دستات را از دجله و فرات بیرون بیار. من جای پنجه های سرخ تو را بر کمرکش سنگی در غارهای مرگ سور دیدم. میان ماموت های وحشی و ساحره‌ای که کمانش را به ما نشانه رفته. انگار بخواهی بگویی من اینجا بودم و دوده های مقدس تو را به حفره‌ای تو خالی بر سینه سنگی بدل کند. تو انسان معمولی هستی با تسلطی کافی بر زبان ارواح و قدرت پیش بینی هجوم گالاها به ابو غریب را از اجداد مادریت به ارث برده ای. تشت خون بنوش، تعداد مردگان این جنگ را بر الواح سومری بنویس با خطی که حرف اولش شعری است که هرچه فکر کنی به یاد نمی آوری. دهانت را از دجله و فرات بیرون بیار. قصه نینوا را برای بوزی بگو که 7000 سال پیش کنار درختی مقدس به خواب رفته بیدار نمی شود. روح در گوشت ما ساکن است و این فقط تویی که می دانی در رک هامان خون کینگو جریان دارد. قلم به دست بگیر و برای کسی که 700000 سال بعد استخوان رانمان را با قلموی کهنه‌ای پاک می کند به زبان پنجه های سرخ مانده بر گلوی زمین بنویس. بهشت در جنوب غربی ما بود، کمی مانده به اولین خوشه گندم که از زمین روید. بعد چشمهات را به سبک قربانیان خدایان بابلی بکش. انگار که بخواهی بگویی من اینجا بودم و دوده های مقدس تو را به خیال حفره ای تو خالی بر سینه سنگی بدل کنند.
Pour un poète d'Abu Ghraib. Retire tes mains du Tigre et de l'Euphrate. J'ai vu tes empreintes rouges sur les parois des grottes de Mergassur, entre les mammouths sauvages et la sorcière qui pointe la lune avec son arc, comme pour dire qu'elle était ici. Et les fumées sacrées te transformeront en un creux inoccupé dans la poitrine de la pierre. Tu es un être ordinaire avec une maîtrise suffisante du langage des âmes. Des ancêtres de ta mère, tu as hérité du pouvoir de prédire l'invasion d'Abu Ghraib par les Galus. Bois un récipient de sang, écris sur les tablettes sumériennes le nombre de morts de cette guerre avec un vers dont la première lettre est déjà un poème dont tu ne te souviens pas malgré tes efforts. Retire ta bouche du Tigre et de l'Euphrate. Raconte l'histoire de Ninive à une chèvre qui a dormi au pied d'un arbre sacré il y a 7000 ans et qui ne se réveille pas. L'âme réside dans notre chair et toi seul le sais. Le sang de Kingu coule dans nos veines, prends une plume et écris sur la poitrine de la terre avec le langage des griffes rouges pour la personne qui nettoiera dans 7000 ans les os de notre jambe avec un pinceau usé. Le paradis se situait dans notre sud-ouest, non loin du premier épi de blé qui a poussé sur la terre. Puis dessine tes yeux à la manière des sacrifiés des dieux babyloniens, comme pour dire que tu étais ici, et les fumées sacrées te transformeront en songe dans le creux inoccupé de la pierre. Atiya Tarzadeh, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez écrit ce texte?
نه واقعا اون لحظه، اما الان میتونم تصور کنم که احتمالاً یک مثل همیشه اتفاقای عجیبی دورم افتاده بوده.
C'est comme si autour de moi, comme d'habitude, il y avait plusieurs événements bizarres.
و داشتم به این فکر می‌کردم که کار من به عنوان یک شاعر چیه؟
Quel est mon travail en tant que poète?
چی رو می‌خوام بگم و به چه کسانی؟
Qu'est-ce que j'ai envie de dire et à qui?
و فکر می‌کنم واقعا همین باشه، همین که صدایی رو از اکنون به جهان و به آیندگان برسونی.
C'est maintenant, je pense que c'est la voix que il faut être à partir de maintenant pour l'avenir, pour les autres.
Et qu'est-ce que vous pensez que la poésie peut, que le cinéma que vous pratiquez aussi, hein, vous avez fait un magnifique documentaire dont j'ai pu voir quelques minutes sur un hôpital psychiatrique de Téhéran. Et qu'est-ce que vous pensez que la poésie pourrait, que le cinéma ne peut pas dans votre cas?
La poésie est très personnelle.
من از یک جایی فهمیدم که در واقع با اینکه بسیار علاقه داشتم به ساخت مستندهای اجتماعی.
Bien que j'avais très envie de faire des documentaires sociaux.
اما در واقع جریان ساختش خیلی فیلم غیر شخصی میشه.
J'ai vu que le documentaire devenait pas très personnel.
خیلی سخته که در سینما همونطور که گفتم به اون ناممکن بتونی دست پیدا کنی.
Je pense que pour moi c'est difficile d'arriver à cet impossible que je disais dans le cinéma, mais dans la poésie.
یا حداقل برای من بود.
Ou bien c'est ce que je pense.
و با اینکه سینما خوندم و مستند می‌سازم.
J'ai bien que j'ai étudié le cinéma et j'ai appris faire des documentaires.
اما در به مرور فهمیدم که در نوشتنه که میتونم.
Mais j'ai trouvé que c'est dans l'écriture que je peux.
به اون تخیل بی‌نهایت و آزاد دست پیدا کنم.
Je peux accéder à cette imagination sans limite.
L'imagination sans limite et le pouvoir de l'imagination, Delphine Minoui, je reviens à vous, avec cette poésie iranienne que vous connaissez aussi si bien. Est-ce que c'est aussi une de vos motivations, justement, ce plaisir de la possibilité de la fiction comme illimitée?
Oui, c'est le lieu de tous les possibles. Et quand on voit qu'on vit dans un monde où l'espoir est de plus en plus tenu, finalement, je pense qu'il faut réenchanter... et retrouver une certaine forme d'espoir. Et la seule possibilité aujourd'hui, c'est la littérature, c'est l'écriture. L'écriture comme un baume, l'écriture comme un monde de tous les possibles, l'écriture comme une fenêtre toujours ouverte sur l'horizon.
Atiya Tarzadeh, le mot de la fin pour conclure.
خیلی خوشحالم که دعوتم کردین.
مرسی پور فور اینویتیشن.
و از خانم روان به خاطر ترجمه شعرم بسیار سپاسگزارم.
Remerciement à moi pour la traduction.
Oui, voilà, merci Farideh Ravah pour cette traduction. Merci beaucoup, merci Delphine Minoui
de
nous avoir rendu visite. Je rappelle que Bad Gens, votre dernier roman, est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à Atiya Tarzadeh. Le Je respire sous la pierre, votre recueil de poèmes, est paru aux éditions Bruno Doucet, traduit par Farideh Ravah. Cette conversation littéraire était réalisée par Camille Mati avec Manuel Couturier à la technique aujourd'hui. La préparation était assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain, bien sûr, mais d'ici là, je vous propose de réécouter et de podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture.